Le bulletin de 18h, Jean-Claude Mabéa.
Madame, monsieur, vous avez choisi d'écouter Radio de la Paix, vous avez raison. Il est 18h à Abidjan et à Dakar, 2h de plus à Goma, en République démocratique du Congo. Bonsoir à tous et merci de suivre ce dernier point sur l'actualité, les titres. Politique française en Afrique, le président Emmanuel Macron a nommé l'année dernière un représentant spécial pour certaines de ses anciennes colonies où la France a encore des bases militaires. Le professeur Bamba Abdoulaye, spécialiste des relations internationales, se prononcera sur cette nomination en début de ce journal. Dans cette édition, nous irons à Bouaké où 4 des 6 pensionnaires du centre d'observation des mineurs ont obtenu le BEPC l'année dernière. Crise au Sénégal, les forces de sécurité ont dispersé par la force un rassemblement à Dakar ce vendredi. Voilà pour l'essentiel. Merci d'être à ce rendez-vous. Ce dernier bulletin d'information s'ouvre sur l'actualité internationale. Le président français Emmanuel Macron vient de nommer son représentant spécial en Afrique. Il se nomme Jean-Marie Bockel. Il va négocier les contours d'une nouvelle coopération militaire avec certaines de ses anciennes colonies où la France a encore des camps militaires. Sur les implications géostratégiques de la nomination de l'envoyé spécial du président français en Afrique, écoutons le professeur Bamba Abdoulaye, il est spécialiste des relations internationales.
Jean-Marie Bockel est celui qui était ouvertement opposé à la France-Afrique, ce qui lui avait déjà coûté cher à un moment donné de son passé. Et aujourd'hui, c'est lui qui a été choisi par le président Macron pour venir échanger, négocier avec le chef d'État où se trouvent les bases militaires françaises. C'est déjà un signal fort que Macron donne aux pays africains et surtout à la jeunesse africaine qui de plus en plus a du mal à supporter cette présence militaire française. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Macron fait de la réelle politique. Il s'adapte au contexte, un contexte qui est de plus en plus défavorable à la France en Afrique. Et je pense que c'est la meilleure façon d'anticiper sur le problème.
Qu'est-ce que ça peut changer véritablement? Le nombre de militaires va baisser ou bien va augmenter? Les camps militaires vont changer de nomination, vont devenir des camps militaires africanisés?
Il faut dire que la décision a été prise depuis décembre 2023 au cours d'un conseil de ministres. L'objectif, c'est de réduire au maximum les effectifs militaires français dans les pays où encore on a des troupes françaises. C'est l'objectif principal. Et c'est surtout au niveau des pays concernés. Et c'est de s'adapter à leurs besoins de l'heure. Il appartient donc à ces pays de définir exactement les besoins qu'ils ont, besoin en équipement, besoin en formation. Et c'est à ce niveau-là que la France va beaucoup plus intervenir.
Le professeur Bamba Abdoulaye, spécialiste des relations internationales, a été joint par Constant Maïlé. Quelle contribution des banques centrales dans les stratégies de lutte contre les changements climatiques? C'est cette question essentielle qui a fait l'objet d'une conférence internationale organisée les 6 et 7 février dernier à Dakar, au Sénégal, par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Sur les conclusions de cette rencontre, écoutons les explications de Jean-Claude Cassibrou, il est le gouverneur de la BCAO.
Les pays africains polluent peu, moins de 5% des émissions de gaz à effet de serre, mais ont subi des chocs très élevés. Inondations, sécheresses, impact sur la santé avec les maladies qui se développent, etc. Et bien sûr, tout ça a un coût économique important. Et toutes les études montrent que l'Afrique, ça peut impacter 15% de notre produit intérieur. Ça veut dire que ce n'est plus un phénomène marginal, c'est un phénomène systémique. C'est-à-dire que ça peut impacter tout le secteur financier. Et dès que le secteur financier est impacté, les banques centrales sont interpellés. Parce que les banques centrales ont pour mission de stabiliser l'inflation, stabiliser le secteur financier pour assurer une croissance économique forte dans le pays. Donc la question c'était de voir au fond, qu'est-ce que les banques centrales peuvent faire? Et donc on a pensé qu'il était bon de nous retrouver pour échanger et voir qu'est-ce qu'on fait. On a donc vu qu'il était important de mettre en place des mesures incitatives pour que le secteur financier dans son ensemble s'oriente vers le financement d'activités qu'on appelle les activités vertes. On a vu également qu'il y avait beaucoup de possibilités de financement au niveau des banques de développement, à travers les obligations vertes, par exemple, les mécanismes de financement alternatif, le financement mixte. Et donc, il y a beaucoup d'opportunités. Et donc, il faut effectivement soutenir et accompagner pour que le secteur financier soit mieux à même de contribuer à limiter l'impact des changements climatiques.
Jean-Claude Cassibrou, le gouverneur de la BCAO, la Banque centrale de l'Afrique, des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Il était sur Radio de la Paix. On prend la direction de Bouaké, où 4 des 6 élèves détenus au centre d'observation des mineurs de Bouaké ont obtenu l'année dernière leur diplôme du BEPC, le brevet d'études de premier cycle. Une performance qui, selon la directrice de cette structure, doit encourager les parents des enfants en conflit avec la loi à ne pas stigmatiser leur progéniture. Des détails dans ce reportage de Joseph Assalé, notre correspondant régional dans le Gbeke.
Les enfants en conflit avec la loi, internés au COB, centre d'observation des mineurs de Bouaké, sont souvent stigmatisés après leur séjour de rééducation, regrette Kwasi Léa, directrice de cette structure.
Chez les Baoulé, la prison est dit Bissoua, maison de caca. Chez les Djoula, par exemple, nos frères Malinké, on dit Kassobom, c'est maison de pénitence. Donc quelqu'un qui vient d'une maison de pénitence ou d'une maison de caca, vous savez que la personne n'est pas la bienvenue. C'est un déshonneur même pour la famille. Donc il y a tout cela qui fait que l'enfant peut abandonner l'école. L'enfant peut ne plus avoir envie d'aller à l'école. Il faut le réhabiliter, il faut le réinscrire dans un processus scolaire.
L'encadrement dont bénéficient les élèves détenus au centre d'observation des mineurs de Bouaké a porté fruit l'année dernière avec l'admission de 4 candidats au BEPC. Kwasi Léa.
L'année passée, par exemple, on avait 6 élèves ici, candidats au BPC. À la veille des examens, le procureur a modifié leur garde de façon provisoire pour leur donner la chance de passer l'examen. Et puis, sur les 6, on a eu 4 admis. Ils ne sont pas laissés pour compte.
La directrice Afrique de la Fondation Frédéric Naumann, à l'occasion d'une visite au centre d'observation des mineurs de Bouaké, a exhorté les pensionnaires à s'armer de courage. Alexandra Heltz.
Il y aura des tentations, de mauvaises tentations. Donc, repensez à ce qu'on vous a appris ici et à la confiance qu'on mettra en vous le jour où vous retournerez dans vos familles.
Joseph Assalé, Bouaké, Radio de la Paix.
Okay, pour parler cette fois de l'utilisation des produits phytosanitaires dans l'agriculture. En effet, les revendeurs des produits phytosanitaires de Bouaké ont vu récemment leur capacité renforcée sur la réglementation des pesticides, leur prescription, la tenue d'un magasin et l'étalage des produits. C'était à l'initiative de la Direction régionale de l'agriculture, du développement rural et des productions vivrières, dont la première responsable, Bléou Assamoa Yvette, est au micro de Joseph Assalé, notre correspondant régional dans le Gbeke.
Les pesticides mal utilisés posent beaucoup de problèmes. Des problèmes de santé, des problèmes sur la terre, des problèmes sur l'environnement. Les revendeurs de pesticides sont des opérateurs économiques auprès desquels nos vaillants producteurs vont acquérir ces différents produits-là dont ils ont besoin pour la production. Et donc, il était vraiment opportun de pouvoir faire une formation, les sensibiliser aux bonnes pratiques, les informer sur la tenue de leur magasin. Parce que c'est eux qui sont au début de la chaîne et donc ils doivent être informés pour pouvoir mieux orienter les producteurs qui viennent vers eux. Donc c'est ce qui justifie cet atelier de formation. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les revendeurs de pesticides sont soumis à un agrément. C'est un corps de métier qui est soumis à un agrément. Donc logiquement, ceux qui y sont doivent avoir un agrément. L'agrément intervient après d'abord une formation. Quand vous êtes évalué au bout de cette formation et que vous êtes jugé apte, vous constituez vos dossiers et c'est au vu de ce dossier-là que le comité pesticides siège et on vous accorde l'agrément. C'est en somme pour pouvoir régulariser la situation de certaines personnes qui sont dans ce métier-là, qui n'ont pas encore leur agrément et aussi ceux qui ont déjà l'agrément, pouvoir renforcer leur capacité. Ces produits qu'ils vendent là ne doivent pas être vendus en vrac.
Vous venez d'écouter Bléou Assamoa Yvette. Elle est la directrice régionale de l'agriculture, du développement rural et des productions vivrières du Gbeke. crise au Sénégal. Les forces de sécurité ont dispersé violemment ce vendredi une tentative de rassemblement à Dakar. Au cours d'une journée test du rapport de force entre le pouvoir du président Macky Sall, la société civile et l'opposition. Des groupes mobiles qui cherchent à se rapprocher de la vaste esplanade de la place de la nation sont tenus à distance par des policiers en tenue anti-émeute qui tirent du gaz lacrymogène. Plusieurs manifestants répondent en lançant des cailloux. Tous les accès à la place sont fermés. La situation est déplorable. On est venu prier et on s'est fait gazer, ce qui est intolérable. Les Sénégalais doivent s'indigner et plus seulement sur les réseaux sociaux, a déclaré à l'AFP l'un des candidats à la présidentielle, Thierno Alassane Sall. Cette mobilisation est la première contestation d'ampleur depuis le report du scrutin présidentiel initialement prévu le 25 février qui a ouvert une grave crise politique au Sénégal et plongé le pays dans une période d'incertitude. Et puis, en République démocratique du Congo, les rebelles du M23 menacent la grande ville de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, dans l'est du pays. L'intensification des affrontements entre celle-ci et les forces gouvernementales a jeté, depuis le milieu de cette semaine, des milliers de civils en fuite, estimés à 150 000 depuis le 2 février dernier sur les routes. D'autres affrontements ont été signalés autour de la ville de Sake, cité du Masisi, située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma et considérée comme ville stratégique sur la route nationale 2. Pour en savoir plus sur l'évolution de la situation sécuritaire dans cette partie de la République démocratique du Congo, Radio de la Paix a joint John Kanyoniu, journaliste et reporter de guerre congolais.
Il y a des affrontements qui sont en dehors de la ville de Goma, précisément dans les environs de la cité de Sake. C'est à 27 kilomètres à l'ouest de la ville de Goma. Et ce qui fait peur à la population, c'est le fait pour certaines bombes de tomber dans la cité de Sake, et qui est jusqu'à là un verrou sur Goma. Et les conséquences sont vraiment nombreuses parce qu'il y a des populations, des villages environnants qui sont obligés de vider les lieux, se rendre vers le centre-ville de Goma.
Quelle est la réaction de l'armée congolaise?
Oui, l'armée congolaise et ses alliés sont en train de se battre sur le champ de bataille. Mais aussi, il y a le vice-premier ministre et ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, à Goma.
Le secrétaire général adjoint des Nations Unies devrait être en RDC. Est-ce que vous confirmez?
Oui, il était à Beni et normalement, il devait être à Goma avant de chiter sur Kinshasa. De toutes les façons, cette situation de la province du Nord Kivu est prise au sérieux par la communauté internationale, mais les Congolais voudraient que cette communauté internationale aille loin, à essayer un peu de pousser le Rwanda, qui a toujours été accusé par Kinshasa de soutenir les M23, de faire quelque chose sur le plan diplomatique et aussi sur le plan politique.
John Kanyoniu, il est journaliste et reporter de guerre. Il est congolais. Il s'exprimait sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Il a été joint depuis la ville de Goma par Aoussi Potin. Un mot de sport, football. Le président de la Confédération africaine de football, CAF, Patrice Motsepe, qui a animé une conférence de presse ce vendredi à Abidjan, n'a pas donné de date pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations censée se tenir au Maroc en 2025. Je ne vais pas faire d'annonce, mais nous le ferons en temps voulu. Mon message pour le peuple du Maroc et le peuple africain est que la CAN de l'année prochaine sera un immense succès, a dit le dirigeant sud-africain devant la presse à 2 jours de la finale de l'édition en cours Côte d'Ivoire-Nigeria dimanche à Abidjan. Or, au même moment, la Fédération internationale de football association FIFA organise son premier grand mondial des clubs à 32 équipes du 15 juin au 13 juillet prochain aux États-Unis. Les deux précédentes CAN ont donc été déjà décalées. La CAN 2021 s'est jouée en janvier-février 2022 au Cameroun et l'actuelle Coupe d'Afrique des Nations, toujours officiellement baptisée CAN 2023, a commencé le 13 janvier 2024. En Côte d'Ivoire. Par ailleurs, les qualifications pour la CAN 2025 n'ont toujours pas commencé. Un tour préliminaire est donc programmé du 18 au 26 mars 2024 selon le calendrier de la CAF. Par ailleurs, la CAN 2027 doit être organisée dans 3 pays, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. C'est sur cette information sportive que prend fin ce bulletin des 18h, le rappel de l'essentiel. Politique française en Afrique, le président Emmanuel Macron a nommé en décembre 2023 un représentant spécial pour certaines des anciennes colonies où la France a encore des bases militaires. Et le professeur Bamba Abdoulaye, spécialiste des relations internationales, s'est prononcé sur cette nomination en début de ce journal. À Bouaké, 4 des 6 pensionnaires du centre d'observation des mineurs ont obtenu leur BEPC l'année dernière. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention. L'actualité reprend ses droits demain sur Radio de la Paix à partir de 7h. Dans quelques instants, vous pourrez suivre le magazine humanitaire présenté par Sonia Nzian. Excellente suite de programme à l'écoute de Radio de la Paix.
Humanitaire. Humanitaire pour une bonne visibilité des actions d'aide et de protection des populations en Côte d'Ivoire sur Radio de la Paix.